Europe 1.
Europe 1.
16h-18h. L'équipe est sauvage.
Mathieu Noël.
Rire à gorge déployée, se fendre la poire, se dérider la chignole, voire, comme disent les jeunes Eva, se rincer la margoulette. Oui, vous écoutez l'équipée sauvage, l'émission préférée des jeunes qui aiment à rire, mais aussi à réfléchir, grâce aux lumières de nos journalistes en compétition pour le titre de chroniqueur du jour. Accueillons sans plus attendre Eva les deux concurrents qui vont s'affronter dans cette manche. Ils sont rivaux dans cette émission, mais très complices dans la vie. Hors antenne, ce sont de véritables pipelettes qui profitent de chaque coupure pub pour se poser des questions parfois très intimes, comme la semaine dernière quand Eve Roger se renseignait carrément, certainement pour une amie, sur les performances sexuelles de Nicolas Carreau.
Il m'entend ou pas, Nicolas ?
Moi, je t'entends, Eve.
Oui, dis-moi, quand tu dis deux fois de suite, c'est-à-dire...
Coup sur coup.
Ah oui, donc en une seule fois.
Ah bah oui, bien sûr.
D'accord.
Mais quel vantard ! Bonjour Nicolas Carreau.
Bonjour.
Quand vous ne racontez pas vos exploits nocturnes à vos collègues, vous êtes un journaliste plutôt compétent, spécialiste littérature d'Europe 1, et à l'heure où on se demande tous à quoi va bien pouvoir ressembler le monde de demain, vous avez choisi de nous parler aujourd'hui de ces romans qui imaginent le futur.
Et oui, je vais utiliser les livres comme des boules de cristal et vous prouver que les écrivains sont des voyants. Il y a beaucoup de livres qui ont prédit l'avenir.
Des boules de cristal cette fois. Merci.
Oh là
votre
là.
Rival Nicolas.
Oh là là, ça va
et
déraper.
Donc
ça
aussi
va déraper.
Votre confidente, Eve Roger, bonjour.
Bonjour à tous.
Vous êtes chef du service société d'Europe 1.
J'en ris encore de votre blague.
Et cet après-midi, Eve, vous êtes allée pour nous à la rencontre de ces gens que le confinement a coupé en plein élan. Un mariage, un voyage, un tournage peut-être.
Et voilà, c'est ma chronique, c'est un peu un jour en destin, en plus joyeux. Je vais vous raconter ces artistes, ces entrepreneurs ou les simples êtres humains dont la trajectoire a été stoppée net par l'épidémie.
Ah, c'est joyeux.
C'est de votre ami Nicolas Carreau. Alors, ces Français que le Covid a stoppé net en plein vol ou bien ces romans dystopiques qui ont si bien imaginé le futur qu'il a fini par advenir, quel sujet l'emportera ? Réponse juste avant 18h, mais là tout de suite, Eva.
Oui.
C'est l'heure du mix.
Mais oui, avec Sébastien Bordonnave, on scrute le meilleur des réseaux sociaux tous les jours pour vous concocter ce petit mix.
Le pire aussi parfois.
Et parfois le pire, ah bah, écoutez bien, au menu de ce jour, deux duos d'humoristes, Charlie et Stylo. Je vous conseille de bien écouter les paroles de la chanson, Mélissa et Fred, la bourde d'un ministre, Jean-Michel Blanquer pour ne pas le nommer, une jolie reprise de Diego par Jeanne Chéral, et on va débuter, Mathieu, avec le Mathieu Noël new-yorkais Jimmy Fallon.
Ah oui.
Qui avec
c'est
son groupe.
Ça, c'est comme ça qu'on l'appelle.
Mais oui, ouais. Qui avec son groupe, les Roots, a réussi à reprendre avec brio et à distance Under Pressure de Queen.
Je vois bien les profs dire aux marmots qu'il faut faire attention aux gestes barrières.
Théo, enlève les doigts de ton nez, hein. C'est pas ton nez ? Oui, bah, raison de plus, enlève.
Ça sent bon le bordel. Chez nous, c'est habituel. Là, c'est chaud pour nos rondelles. Mais faut pas le dire. N'est-ce pas, Bernard ?
Est-ce que vous avez vu pendant les vacances ? Enfin, c'est pas les vacances, c'est pendant le confinement.
Il est libre, ce masque. Parce qu'il y en a qui disent qu'ils vont nous le faire payer.
Ce mix avec Jeanne Chéral au piano, magnifique. Elle a fait des concerts live pendant tout le confinement, c'était absolument sublime sur Instagram.
Jeanne Chéral qui reprend divinement Diego. Vous savez que très longtemps, j'ai cru que Diego, c'était pour Diego Maradona.
C'est pas possible.
Si.
Non, c'est pas possible.
C'était pour Diego de la Vega.
Ah non, mais.
Voilà, comme quoi les grands esprits se rencontrent.
Vous écoutez les paroles
les
ou pas ?
Les cons aussi. Ben oui, mais je sais pas, quand j'étais petit, j'entendais juste Diego et je pensais toujours.
Ouais, libre dans sa tête, donc oui, libre d'aller mettre un but, quoi. C'est
libre
ça, en fait.
Libre d'aller mettre un but, même avec la main. Effectivement.
Olivier Tom, hein, voilà. Allez.
Nicolas.
Oui.
Ça fait du bien de vous retrouver en studio.
C'est vrai,
les auditeurs ne le savent pas, ne le voient pas, mais nous sommes en studio réunis pour la première fois. Nous sommes trois, puisque Eve Roger, elle, est toujours sur sa terrasse. Est-ce que le jacuzzi a été livré, Eve ?
Alors, à votre avis, oui, il est là dans l'entrée.
Non,
dans l'entrée.
Si.
Et il est toujours dans son carton parce que je ne suis pas capable de l'installer moi-même.
Mais je crois que c'est une blague, moi.
Ah non, non, mais on attend le deuxième aussi.
Et là, c'est un moment terrible de radio où Nicolas Caro, qui pensait que c'était une blague, cette histoire de jacuzzi, découvre que vous êtes vraiment blindé, que vous avez vraiment une terrasse dans un penthouse et que vous avez vraiment commandé, en toute simplicité, un jacuzzi comme beaucoup de Français qui nous écoutent. Ils ont hâte d'en découdre, même si en vrai, ils ont surtout hâte de se raconter leur potin de la semaine. Ève Roger et Nicolas Caro sont dans les starting blocks.
Europe 1.
Et c'est Ève Roger qui va ouvrir le bal avec son enquête sur tous ces Français qui, comme vous peut-être, ont été stoppés net dans leur élan par le Covid. Et n'oubliez pas, Ève, surtout comme on a dit, hein, le sujet, rien que le sujet. Si vous avez envie de raconter vos galipettes du week-end à Nicolas Caro, c'est hors antenne seulement, comme il le dit lui-même.
Non mais le faire passe encore, mais le dire à la radio, il y a des limites quoi.
Oui voilà, à tout de suite.
16h, 18h, l'équipe est sauvage sur Europe 1. Sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Ils sont incorrigibles. Hein. J'ai eu beau les tanner avant la pub. Figurez-vous qu'Ève Roger et Nicolas Caro continuaient de se raconter leurs prouesses intimes respectives. J'ai pas tout compris, mais...
Le train souterrain, c'est une image...
Ça j'avais compris, t'inquiète. Oui. Bref, ça suffit. Ève, si vous voulez raconter un truc cochon que vous avez fait à Nicolas, murmurez-lui à l'oreille.
Oh mon Dieu.
Oui, ça suffit. Je crois... Ève, qu'il est temps d'entrer dans le vif de notre sujet.
Quel mon mari, arrêtez.
Un sujet, Ève, dans lequel vont peut-être, hélas, se reconnaître beaucoup de nos auditeurs. Vous nous parlez de ces Français qui ont été stoppés net dans leur élan par le Covid.
Eh oui, ils ont été nombreux à voir le ciel qui leur est tombé sur la tête mi-mars, hein, quand Emmanuel Macron a annoncé le confinement de la France, sans toujours d'ailleurs vraiment réaliser à quel point ça allait bouleverser leur vie, parce qu'au départ, je vous rappelle, c'était quand même 15 jours seulement. Alors c'est vrai pour quelques dizaines d'écrivains qui ont sorti leur livre début mars. Alors c'est vrai, quand on s'appelle Guillaume Musso ou Aurélie Valogne, on a de quoi amortir le choc. Les livres sont vendus en grande surface qui sont restés ouvertes, vous vous souvenez. Donc pas besoin de publicité, mais c'est moins vrai pour les auteurs inconnus, comme Stéphanie Hochet, vous ne la connaissez pas, c'est Nicolas Caro, qui d'ailleurs me l'a conseillé, c'est lui qui m'en a parlé. Le 5 mars, elle publie son dernier livre Pacifique aux éditions Rivage, quand elle apprend 11 jours plus tard, incrédule, que les librairies doivent aussi fermer. Écoutez.
Là, ça a été quand même un gros coup de bambou. Je devais partir dans des festivals, j'avais plusieurs rendez-vous en librairie, le livre démarrait sur les chapeaux de roue. Donc là, oui, ça a été un sacré choc. J'étais secouée, j'étais chamboulée, comme beaucoup d'écrivains dans mon cas. Mais nous, on se retrouve avec des années de travail. En l'occurrence, moi, le mien, je l'ai commencé il y a plus de 4 ans. Par ailleurs, en ce qui me concerne, ce texte-là est sans doute mon meilleur. Et on avait attendu un an et demi avant de le publier parce qu'on cherchait la meilleure date pour la sortie du livre. Et puis tout d'un coup, un produit, entre guillemets, qui est interdit à la vente, c'est extrêmement anxiogène.
Ah oui, ouais, ils avaient choisi, hein, ouais. Là, ils avaient choisi le bon moment, mais c'est horrible. Donc gros coup de déprime, pas d'article dans la presse évidemment, puisque les journaux ne parlent que du Covid. Les journalistes culture sont au chômage partiel dans beaucoup de journaux, donc pas de bouche à oreille non plus. Et Amazon qui suspend ses activités, c'était vraiment le trou noir.
Hein, et là, par exemple, on peut de nouveau acheter son livre aujourd'hui?
Oui, heureusement, les librairies ont rouvert, vous le savez. Puis elle m'a raconté, Stéphanie Hochet, que pendant le confinement, justement, les libraires avaient eu le temps de lire les livres et qu'ils avaient aimé son livre Pacifique. Donc vous devriez pouvoir le trouver assez facilement en ce moment. D'ailleurs, ça donne envie de le lire. Alors, ce n'est pas le cas, en revanche, pour les films dont la sortie était programmée
en avril. C'est compliqué, là, oui.
Voilà. Et là, je vais vous raconter l'histoire terrible d'un jeune réalisateur. Lui s'appelle David Caviglioli et il devait sortir son premier film le 6 mai. Alors, une date, là encore, qui avait été méticuleusement choisie. Le mois de mai, il y a les ponts, il y a le festival de Cannes qui phagocyte les gros films, donc il y avait de la place pour les challengers, il m'a expliqué, sauf que le Covid s'en est mêlé. Ce film s'appelle Terrible Jungle, et tenez-vous bien, il y avait en star Catherine Deneuve, Vincent De Dienne, premier film vraiment très attendu. Catastrophe, tout est suspendu, et vous allez entendre David Caviglioli, il est encore malgré tout philosophe, écoutez.
J'étais sur la ligne, c'est une grippe, bien mal m'en a pris, j'ai mangé mon chapeau depuis. C'est 4 ans de travail, on se dit qu'on n'a pas de peau, mais en même temps, il y a tellement de situations dramatiques. Puis il y a d'autres angoisses, on va dire, qui reprennent le dessus. Au début du confinement, j'étais un peu comme tout le monde, j'étais plus angoissé par désinfecter mes poignées de porte que par la sortie de ce film, vous voyez. C'est vrai qu'il y a une sorte de mélancolie quand même, c'est que quand on est là, chez soi, à s'occuper de ses bébés, ce qui est une joie, hein, évidemment, qu'on se dit, là, le film devrait sortir, on essaye de s'occuper, quoi.
Alors vous voyez, alors le film, alors ils se sont dit, bon alors on va le passer à cet été, à l'automne, et puis finalement ils ont décidé 2021. Il y a une expression qui dit on le laisse au frigo pour 2021.
Oui, on le met au frigo, ouais.
Voilà. Et il n'y a pas que les artistes qui ont reçu un coup de bambou sur la tête.
Non, non, bien sûr, vous avez évidemment tous ceux qui devaient se marier, ça on en a beaucoup parlé, alors annulé, le traiteur, le photographe, le coiffeur, la salle de bal, enfin, on sait que beaucoup ont reporté. Je rajoute là, dans ma liste, le PSG, c'est, peut-être ça va vous parler, il était pour la première fois, si j'ai bien compris, en quart de finale de la Ligue des Champions.
Il n'était pas pour la première fois en quart de finale de la Ligue des Champions, enfin, mais il était pour la première fois un peu bien parti pour voilà, peut-être faire quelque chose.
Chaque année on dit ça. Bon,
oui, c'est vrai. Ouais, ouais.
C'est du foot, c'est en tout cas, j'en ai parlé à mon beau-frère qui m'a dit... Liverpool, c'est encore pire, mais je ne sais pas très bien pourquoi, vous le savez peut-être.
Non, je ne sais pas.
Et puis, et parce que je crois que ça fait 30 ans qu'ils étaient en passe de gagner la Coupe du Monde en Angleterre.
La Coupe du Monde en Angleterre, alors, Eve.
Non, la Coupe anglaise.
Moi, je propose en tout cas, je sais que bientôt on va définir les postes dans cette rédaction, je propose que vous preniez la tête du service sport d'Europe 1, à mon avis, et Liverpool gagnerait forcément la Coupe du Monde d'Angleterre avec vous, je pense.
Bah, pardon, j'y ai passé du temps avec mon beau-frère. Et puis, terrible aussi, ça m'a frappé, tous les restaurateurs qui devaient ouvrir leur nouvel établissement le jour du confinement. Ils sont, je ne sais pas pourquoi, c'est une coïncidence, c'est une malédiction. Des gens qui ont tout lâché pour commencer une nouvelle vie et patatras. Oui. Et j'en ai appelé un ce matin, alors je vais le citer parce que vraiment, il m'a fait de la peine. C'est la taverne d'Épicure à Loudun, dans la Vienne. Et là, je suis tombée sur Christophe. Il est rentré spécialement du Brésil pour ouvrir ce restaurant. Et je peux vous dire, Christophe, il est bien déprimé. Et puis, je finirai avec les nombreux étudiants désespérés qui travaillaient en concours depuis des mois et des mois. Et oui. Alors, c'est le cas de l'Institut Lumière à Lyon, une école de cinéma. Et puis même notre propre bourse, notre concours de journalisme à Europe 1 était annulé. Et hier, j'ai eu une des candidates qui était absolument désespérée aussi.
Mais oui.
Donc je vous avais promis d'être joyeux. Puis
voilà, on n'est plus joyeux du tout. On a les larmes aux yeux. Merci quand même Roger. Alors oui, l'épidémie a interrompu beaucoup de choses, mais rappelons-le encore et encore, hein, le virus est toujours là. Il est donc toujours interdit, Eve, notamment de s'embrasser.
Même avec la langue.
Hein. Même avec la langue, oui. C'est important de le rappeler, effectivement, dans les gestes barrières. Oui.
Europe 1.
Dans un duo, il y a toujours un qui bosse plus que l'autre, qui reste plus longtemps au bureau, qui s'investit plus. Déva et moi, je vous laisse deviner qui est le plus investi. Élise Mounière avait visiblement sa petite idée.
Et vous faites des émissions, depuis le début, depuis deux mois, vous faites ça de chez vous.
Oui, moi non.
Depuis le début.
Ouais, enfin, moi, j'y suis restée.
Là, on est de retour en studio.
Ah. Moi, je suis restée en studio tout le temps.
Ah bon?
Mathieu était sous son canapé, ouais.
Quelle ordure celui-là.
Oui, je et l'avoue. Voilà. Pour la partie conseil télé-écran de l'émission, c'est surtout Eva qui visionne les programmes. Ces conseils arrivent tout de suite.
Europe 1, 16h, 18h, l'équipée sauvage. L'équipée sauvage sur Europe 1.
16h, 18h,
Mathieu Noël.
C'est la plupart du temps le rôle du psy et de la psychanalyse que de décrypter à travers les attitudes d'une personne ses obsessions les plus intimes. Mais pour certaines patientes, comme par exemple Eva Rock, le décryptage de ses obsessions est assez simple, comme on l'a vu hier avec ce que Freud aurait appelé l'hystérie du troublant. 8 minutes de fou rire provoquées donc par l'utilisation, par notre expert scientifique Alain Sirou, de l'expression « troublant ». Je crois qu'on a tous compris ce qui obsédait Eva depuis deux mois maintenant. Eva, ça vous a plu cette chronique sur les trous noirs? Surtout le troublant, je sens que ça vous a...
C'était troublant, oui, c'est ça.
Passer du troublant au trou noir.
C'est troublant.
C'est là qu'il ne faut pas se tromper, quoi.
Ouais.
Eva, maintenant que nos auditeurs vous cernent
c'est
un peu mieux...
Faites, parce que j'ai le fou rire qui reprend toute seule.
Là, déjà 8 minutes hier, ça suffit.
D'accord.
Vous allez pouvoir maintenant que vous êtes calme, reposé...
Oui.
Nous parler de la télévision et des écrans, puisque
mais
nous
oui,
sommes modernes.
Des écrans, exactement. Depuis le début du confinement, vous avez eu droit aux rediffusions des plus grands succès. Alors, de Louis de Funès, on a eu droit aux Visiteurs, au Père Noël et d'une ordure au printemps. C'était la première fois que ça arrivait, je pense. À la 7e compagnie, à Papy fait de la résistance ou encore Dirty Dancing dimanche soir. Et il manquait une comédie, Mathieu. Une dans cette liste des incontournables, d'après vous.
Le dîner de cons.
Ah bah écoutez.
Et voilà.
C'est ça.
On a les droits.
J'ai trouvé sans regarder le papier.
Ouh là 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 là. Et pour pas cher à mon avis, il a marché. Il a marché à fond le gars.
Et ma femme?
Quoi?
Il a oublié ma femme. Il fait le clown pendant 5 minutes et il oublie ma femme.
Je ne m'en lasse pas, le dîner de cons, vous avez raison, Mathieu. Adaptation par Francis Weber d'une pièce de Francis Weber, écrite en 1993. Et d'ailleurs, le film reprend vraiment les codes du théâtre. Il y a une pièce principale en guise de décor, les quiproquos qui s'enchaînent. Vous connaissez ça par cœur, avec des morceaux d'anthologie côté dialogue, évidemment, parce que c'est extrêmement bien écrit. Mais surtout, formidablement bien interprété grâce à un quatuor d'acteurs, Thierry Lhermitte, Francis Huster, Daniel Prévost et Jacques Villeray, qui avait obtenu d'ailleurs le César du meilleur acteur pour cette prestation. Un succès au cinéma aussi, hein, l'année de sa sortie en 98, 9 millions de spectateurs. Le film s'était classé deuxième après un blockbuster Titanic en l'occurrence. Donc, pour vous dire à quel point ça a été le gros succès de cette année et que ça l'est encore, à quoi reconnaît-on qu'un film est devenu culte? Et ben, quand le nom de son personnage devient une expression, hein, fais pas ton François Pignon, quand une idée de scénario entre aussi dans le vocabulaire.
François
un
Pignon,
dîner de con,
même.
Pignon, oui, j'ai dit quoi?
Vous avez dit François Pignon, ça fait penser à Dominique Pignon, on pourrait croire que Dominique
non,
Pignon,
non, bon, bah, bon, non, non,
François
pas Dominique Pignon. François Pignon. Quand une idée de scénario, évidemment, entre dans le vocabulaire usuel, fais toi aussi un dîner de con, et quand des pans entiers de dialogue sont répétés par cœur, voilà, Georges Brassens aurait adoré chier.
Autour de la table, t'en es que trois. Enfin, Eve, vous êtes avec nous en ligne. Est-ce que vous pensez que avoir déjà été invité à un dîner de con en tant que personne principale de ce dîner? Moi il m'est arrivé de me poser la question.
Que vous soyez invité ou ah oui.
Après avoir vu ce film, je me suis posé la question.
C'est
une fois, j'avais pas été. Je ne sais plus quelle était ma passion à l'époque, mais comme j'ai eu des passions assez assez audacieuse, assez ridicule dans ma vie.
C'est quoi comme
c'est trop grand public. C'était peut-être un petit peu les voitures ou des choses comme ça. Il se peut qu'on m'ait fait parler un petit peu, effectivement. Oui.
Alors c'est con de vous avoir invité à un dîner de con, pardon.
Bah si, à l'époque si je parlais que de voitures, j'étais un peu con.
Bon, en tout cas, c'est d'avoir sur TF1 ce soir à partir de 21h05, parce que si je vous dis pas où et quand,
c'est vrai que vous avez bien fait de le préciser, parce que sinon ça aurait été, voilà, vous-même vous auriez été invité de votre propre dîner. Et si justement on a trop vu le dîner de con?
Eh bien, une série britannique à voir sur mycanal.fr, c'est mon coup de cœur de ces derniers jours. Série en 4 saisons qui est intitulée Catastrophe. Alors vous inquiétez pas, hein, pas de virus, pas d'astéroïde géant qui va tomber sur la Terre, ça commence plutôt bien. On est dans un bar à Londres, il y a un homme qui est accoudé à un bar, il y a une femme qui arrive, elle veut commander un verre, ils ont la quarantaine tous les deux, ils commencent à parler, à discuter, et puis ils finissent la nuit ensemble, nuit torride, qui se transforme quand même en quelques jours de sexe et de rigolade, parce qu'en fait ces deux-là, ils s'entendent plutôt bien, Rob et Sharon, ils s'appellent tous les deux, puis lui, il va repartir aux États-Unis d'où il est originaire, et puis elle va reprendre son job d'institutrice. Donc parenthèse enchantée, refermée, ben, sauf que 32 jours plus tard, coup de fil de Sharon à Rob.
Ah, ça y est, j'ai deviné.
Je suis désolé de ne pas t'avoir rappelé, mais j'ai une bonne nouvelle, je viens à Londres en avril.
Je suis enceinte.
Tu viens de dire « je suis enceinte » ?
Oui, je viens de dire « je suis enceinte ». Tu veux que je le répète ? Je suis enceinte.
Mais Je comprends pas. Je veux dire, comment c'est...
C'est peut-être parce qu'on a baisé au moins 25 fois en une semaine et que t'as mis une capote peut-être que deux fois. Deux fois sur 25.
Pourquoi tu m'as laissé faire un truc pareil ?
Je sais pas, moi, parce que... Première fois, j'étais bourrée.
Alors, il faut vraiment la regarder en anglais. Pardon, je vous ai mis l'extrait en français pour que voilà, vous compreniez. Ouais. Mais Rob va donc revenir à Londres pour soutenir Sharon. Et puis, en fait, ils vont décider de garder cet enfant. Il va s'installer dans la capitale anglaise, lui. Et ce qui était qu'un plan du soir, en fait, d'un soir en l'occurrence, devient l'histoire d'un couple avec cette difficulté qu'ils vont devoir relever, apprendre à se connaître.
Apprendre à mettre des préservatifs.
Apprendre à mettre des préservatifs. Alors, vous allez voir, ils n'ont toujours pas compris d'ailleurs. ils vont devoir commencer à se connaître, à commencer notamment par le nom de famille. Parce qu'ils ne connaissent même pas leur nom de famille, en fait, au début de la série. Alors, les dialogues sont enlevés. C'est servi par un couple de comédiens formidables qui sont tous les deux à l'origine de la création de la série. C'est Rob Delaney et Sharon Horgan. Les situations sont vraiment criantes de vérité et c'est assez logique parce que Catastrophe, c'est très, très inspiré de la vie de Rob Delaney, en l'occurrence. Tous les deux sont extrêmement attachants. C'est très, très drôle, vraiment. Ce sont des personnages qui sont bourrés de défauts, mais qui nous ressemblent tellement. Donc, voilà, évidemment, on en rigole encore plus. Alors, leur trait de caractère...
C'est-à-dire, vous voulez nous en dire plus sur vos...
Franchement, alors non, mais je vais être très...
Vous aussi, vous avez parfois oublié de vous protéger.
Non, mais c'est
vous
pas aussi. Ça. Mais une héroïne qui a un peu plus de 40 ans, qui se retrouve enceinte alors qu'elle a été célibataire depuis quand même un paquet de temps. Excusez-moi, oui, je m'y retrouve un peu. Je ne vous dis pas que je suis en train d'attendre un bébé, là. Hein, mais voilà.
Je sais pas, pas du tout.
Mais surtout, en plus, ce que j'aime, c'est que les situations qu'ils vivent, elles sont vraiment concernantes. Ça parle de la parentalité, mais aussi de la perte d'un emploi, la perte de confiance en soi, de voir ses parents vieillir, de se voir soi-même vieillir. J'ai adoré. C'est la comédie anti-romantique absolue. Quatre saisons qui vont être mises en ligne sur mycanal.fr.
Tout à l'heure, vous pourrez donner votre point à Nicolas Carreau, qui vous a glissé finement tout à l'heure cette petite question. Il dit: vous avez plus de 40 ans.
Et oh, ça, c'est vrai, vous avez dit ça.
Fort élégant de la part de Nicolas.
Vous avez mon point.
Quoique absolument intéressé, évidemment, mais bien joué, Nicolas Carreau. Merci Eva.
Europe 1.
À suivre, Eva, parmi nos journalistes, il fait partie de ceux qui ont cru en nous dès le début, puisque déjà il y a 3 ans, il disait:
ce serait génial, tu sais, que deux mauvais comme ça se réunissent et ça fasse un truc magnifique, tu vois.
Et en fait, non.
Oui, Nicolas Carreau a toujours eu un sixième sens, mais pas autant que ces auteurs dont il nous parle aujourd'hui et qui, dans leur roman, avaient imaginé le futur avec parfois une précision déconcertante. On en parle juste après Barry Moore de Tile Fjord.
Europe 1, 16h-18h, l'équipe est sauvage.
Crimson, the tide is bringing back the day. Your swan song felt like you never knew about it. So what's the next stop down this road? Doing the opposite of what we're told.
You said you wanted to be just like me, counting yourself among nobody. I see. You said you wanted to be just like me, counting yourself among nobody, nobody.
Caught in a war, caught in a dream, fighting the tide with everything.
I never thought we'd sink so low, but we never took a second breath. There's no one when it's time to go, and no one when it's not yet. I never thought we'd sink so low, but we never took a second breath. There's no one when it's time to go, and no one when it's not yet. Clickbait, the rats are coming out to play. One path to the pit, the traitors go to stay. If it's for me, then are you coming too? Should I believe in if I'm here for you? You said you wanted to be just like me, counting yourself among nobody. I see. You said you wanted to be just like me, counting yourself among nobody, nobody.
Caught in a war, caught in a dream, fighting the tide with everything. Caught in a war, caught in a dream, fighting the tide with everything.
I never thought we'd sing so low, but we never took a second breath. There's no one when it's time to go, and no one when it's not yet. I never thought we'd sing so low, but we never took a second breath. There's no one when it's time to go, and no one when it's not yet.
I never thought that we would sing so low. Now we're running out of air and places to go. You feel the water seeping into your bones. You take a second breath and face the unknown.
And everything is now in black and white, with you and your common sense gearing up for the fight. You deconstruct only again. Skin. I never thought we'd sing so low, but we never took a second breath. There's no one when it's time to go, and no one when it's not yet. I never thought we'd sing so low, but we never took a second breath. There's no one when it's time to go, and no one when it's not yet.
The Tide, c'était une nouveauté signée Barry Moore sur Europe 1.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
L'équipe est sauvage, la grande battle des journalistes d'Europe 1 est entrée dans sa dernière ligne droite. Et notre ultime concurrent au titre de chroniqueur du jour est aussi un des plus redoutables. 5 romans lus par semaine, 9 thés cumulés dans Télérama. Nicolas Caro, c'est surtout un don pour la mise en scène de ses chroniques qui relèvent souvent de la superproduction.
On commence comme toujours par la première phrase d'un roman culte. Aujourd'hui, je vous ai choisi La promesse de l'aube de Romain Gary. C'est fini. Voilà, c'était ça la première phrase.
Wow ! Alors vous, on peut dire que vous savez accrocher l'auditeur. Nicolas Caro, vous êtes le monsieur littérature d'Europe 1 et aujourd'hui vous nous parlez de ces romans qui avaient imaginé le futur avec une justesse parfois saisissante.
Et oui, et c'est un travail d'équipe aujourd'hui. Sébastien Bordenave, l'immense Bordenave qui travaille avec vous, m'a envoyé une capture d'écran hier, un tweet qui surlignait un extrait assez troublant du roman de George Orwell, 1984. Mmh. Je vous le lis. Il n'était pas facile en outre de voyager seul sans attirer l'attention. Pour des distances inférieures à une centaine de kilomètres, il n'était pas nécessaire de faire viser son passeport. Mais il y avait parfois des patrouilles qui rôdaient du côté des gares.
Il connaissait déjà la règle des 100 kilomètres.
Ouais. Oui, et les patrouilles du côté des gares. Alors j'ai vérifié quand même, j'ai fait mon travail de journaliste d'investigation. Dans la version Folio, traduction d'Amélie Audiberti, c'est page 158 si vous voulez lire ce passage. C'est troublant et à la fois c'est complètement normal. Déjà bon, c'est un roman d'anticipation, écrit en 48 d'ailleurs. Orwell a choisi la date 84 en inversant les chiffres 48-84. Mais donc c'est un roman d'anticipation qui par définition se pose des questions sur ce qu'il pourrait arriver. Dans 84, il y a énormément de visions du futur qui se sont révélées exactes, ou à peu près. Et tout est là, dès qu'on est face à une restriction de liberté publique, on cite 1984. On dit, voyez, il avait raison, le télécran, la caméra télévision installée dans tous les foyers, c'est l'assistant vocal de Google, la novlangue, ce sont les anglicismes, etc. Oui, mais d'abord, on va un peu vite, les intentions sont différentes, même si ça peut les rendre plus perverses encore, mais surtout, on est victime de l'attention sélective. C'est-à-dire qu'il y a énormément d'événements, de cauchemars de 1984 qui ne se sont jamais produits. Encore heureux. Et d'ailleurs, Orwell n'avait pas du tout l'intention de prophétiser, simplement de pointer des dysfonctionnements de sa propre époque et éventuellement mettre en garde les générations futures. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas un concours de vision du futur.
Oui, mais la pandémie quand même, par exemple, beaucoup d'écrivains l'avaient vu venir.
Alors, il y a Le Fléau, par exemple, de Stephen King, il y a Némésis de Philip Roth dans un autre genre, où il y a Pandémia de Frank Tillier, rien à voir. On a dit, ils avaient tout vu, tout deviné, ce sont des mages, mais on oublie qu'il y a deux à trois pandémies par siècle. Ce n'est pas une invention du futur, c'est simplement l'histoire qui se répète. Et c'est aussi la capacité des écrivains à sentir les choses et à prédire non pas les événements, mais les comportements humains dans différentes situations. Or, si vous prenez la masse des romans publiés, on peut lire tout, absolument tous les différents types d'événements. Et quand vous mettez en place le décor fictif, ensuite, vous mettez en scène vos personnages et leurs comportements forcément qui vont avec. Par exemple, dans un roman sur un virus mondial, bien sûr qu'au début, les gouvernements paniquent, bien sûr qu'on ne trouve pas un remède tout de suite, et bien sûr qu'il y a des dénonciations et aussi de belles choses.
Parce que si on trouve un remède tout de suite, en fait, ce n'est plus un roman, c'est une nouvelle.
Bah voilà.
Voilà, c'est fini. Et les écrivains,
c'est un tweet.
C'est un tweet, encore pire qu'une nouvelle, effectivement. Le tweet est un peu une nouvelle du 21e siècle. Ouais. Les écrivains n'ont finalement aucun pouvoir de prédiction, Nicolas.
Non, mais ça n'empêche pas qu'il faut être très fort pour décrire les comportements vraisemblables en fonction de tel ou tel événement. Il y a un livre extraordinaire d'un écrivain non moins extraordinaire, Pierre Bayard. Il est aussi prof de littérature à l'université Paris 8. Il y a quelques années, il a écrit un livre qui s'appelle « Le Titanic fera naufrage » aux éditions de Minuit. Fera naufrage. Il y parle notamment du roman de Morgan Robertson. C'est un vrai roman, publié 14 ans avant le naufrage du Titanic. Le roman de Robertson s'appelle « Futilité ». Tenez-vous bien, il raconte l'histoire d'un grand navire, fierté de la technologie et de la science de son époque, toute puissance de l'homme. Le bateau s'appelle le Titan.
Non.
Il mesure 240 mètres de long. Le Titanic en faisait 269. Trois hélices comme le Titanic. 25 nœuds de moyenne comme le Titanic. Capacité d'accueil 3000 personnes. 3200 pour le Titanic. C'est fou, mais aussi considéré comme insubmersible et avec un nombre de canottes de sauvetage restreint. Je ne vous fais pas la liste, c'est édifiant. Évidemment, donc, dans le roman publié, je rappelle 14 ans plus tôt, le bateau fait aussi naufrage. Ça ne veut pas dire que Robertson a des pouvoirs de prémonition, même si c'est très impressionnant. Il a de très grandes connaissances maritimes d'abord. Il aurait inventé le périscope d'ailleurs. Et puis, c'est l'ère du temps, c'est son époque. Pourquoi on parle encore du Titanic aujourd'hui, au-delà du drame,
c'est le symbole,
plein d'autres des naufrages, mais c'est que c'est le symbole de son époque. La course au gigantisme, au progrès, etc. Alors, je redis, il faut être très très fort pour écrire un roman qui décrit à ce point la réalité à venir, mais il n'y a pas de paranormal là-dedans. Surtout, il faut donc écouter les écrivains.
On ne le dira jamais assez. Merci Nicolas Carreau. Ève, un mot fair play sur le talent de Nicolas.
Je ne sais pas pourquoi, il n'est pas livré.
C'est dégueulasse.
Europe 1.
Mais il arrive.
Il arrive par Chronopost. Avoir un invité en studio, c'était souvent formidable. Surtout quand l'invité était une invitée et que sous couvert de l'interviewer, je pouvais surtout la draguer en loose day. Le seul problème, bien sûr, c'est quand elle captait que je n'étais pas vraiment célibataire, comme par exemple la chanteuse Shaim.
C'est à cause des tâches ménagères.
Enfin, Ève, on est en 2020. Si je nettoie pas le verre, je me fais défoncer. Hein.
Mais t'as une copine, ça veut dire ?
Oui.
Depuis tout à l'heure, tu me chines et en fait, t'as une copine. Non, mais d'accord. Il bouffe à tous les râteliers, quoi. Ça va bien.
Oui, on sera vraiment passé par toutes les émotions dans ce studio. Et si on ouvrait l'album Souvenir Eva ? A tout de suite avec Isabelle Carré. Je l'avais draguée, elle ? Je me souviens plus.
Oui.
Europe 1, l'équipé sauvage. 16h, 18h. Sauvage sur Europe 1.
16h, 18h.
Mathieu Noël.
Elles ne peuvent pas encore revenir nous voir en studio. Il faudra d'abord procéder évidemment à une décontamination complète des varocs. Mais les stars.
Ça va pas.
Mais les stars restent dans nos cœurs. Notamment Eva, la comédienne Isabelle Carré, dont le talent et la gentillesse, dont le talent et la gentillesse avaient littéralement irradié notre émission en janvier dernier. Son indulgence aussi m'avait touché. Chaque soir dans Délices in Extremis, vous sauvez notre parler. Vous sauvez.
Ça arrive au meilleur.
Oui, mais au plus nul aussi. Isabelle Carré était notre invitée en public le 24 janvier dernier. Pour cette 101e édition de l'équipe sauvage, nous recevons donc Isabelle Carré. Mais pour la 100e, hier, nous recevions François Berléand qui a une question pour vous, Isabelle.
Ah, Isabelle, c'est François Berléand. Voilà, je voudrais te poser une question parce que ça m'énerve. Comment tu fais pour toujours être exceptionnel dans tous les films, toutes les pièces que tu joues ? Voilà, comment tu fais ?
C'est chouette.
Bien, question, Mathieu Noël.
Visiblement, ça s'est mal passé sur le tournage de l'Esprit de Famille. Hein.
C'est vrai qu'il y avait une ambiance incroyable. Tout était idyllique. Le metteur en scène, Éric Bénard, nos retrouvailles avec François, effectivement, avec qui j'avais déjà tourné dans plusieurs films. Josiane Balasco, qui m'avait dirigée dans Cliente. Et Guillaume de Tonquédec, avec qui j'avais joué quand j'avais 20 ans, L'école des femmes.
Donc c'est des grandes retrouvailles, ce film.
Ouais, et c'est vrai que du coup, cet esprit de famille, il était vraiment là.
Il est palpable à l'écran. Vous jouez donc au Théâtre du Rond-Point en ce moment. C'est pas la première fois que vous jouez dans ce théâtre. C'est une salle assez symbolique pour vous. Vous dites, j'ai débuté à 17 ans, j'avais rendez-vous avec une copine dans le hall de ce théâtre quand Jean-François Balmer est venu me voir et m'a demandé si je pouvais pas passer une audition. J'étais en avance, j'ai accepté. C'est là que tout a commencé.
C'est vrai, et je dois vous dire que tous les soirs, en fait, je regarde la petite fenêtre. En fait, c'était la salle où on jouait là avec Jean-François. Et tous les soirs, quand j'arrive au repos, je regarde cette fenêtre et j'ai l'impression de retrouver l'excitation de la première fois, quoi. Peut-être pour ça que j'aime particulièrement ce théâtre, outre le fait que c'est quand même un lieu culturel. Enfin, ce qu'en a fait Jean-Michel Ribes est quand même assez exceptionnel. En plus, les auteurs vivants, moi, j'aime le théâtre contemporain. Pourquoi ? Parce qu'il nous parle de nous, en fait. Moi, quand je suis spectatrice, au théâtre, ce que j'ai envie de voir, c'est qu'on me parle de moi, de mes préoccupations, de mes questions du moment. Bon, même si, effectivement, quoi, les grandes pièces de Shakespeare vous parlent de vous aussi, mais quand même, ces questions qui sont soulevées dans la pièce Détail, par exemple, le désir d'enfant, les fécondations in vitro, on parle aussi de ça, on parle des migrants, des réfugiés.
Il y a plein de résonances avec l'actualité.
Il y a plein de résonances. Ouais. Parce qu'on parlait de ces années 90, c'est vrai qu'elles sont particulières dans le sens où c'est vraiment en germe tout ce qu'on va vivre aujourd'hui, en fait. La mondialisation qui commence. C'est assez fascinant, ouais.
Est-ce que vous avez des petits rituels avant de monter sur scène?
Oh là là, c'est pas des petits rituels, c'est des tocs.
Ah, vous avez des tocs, carrément.
Tout un tas de tocs.
Vous avez notamment un truc avec une assiette de fromage, je sais pas si c'est vrai cette histoire.
Comment vous savez ça?
Je me renseigne.
Vous avez été au Rond-Point, vous avez parlé à tout le monde.
Oui, j'ai senti l'odeur, en fait. J'ai deviné. Racontez-nous.
En fait, ce qui se passe, c'est qu'avant de jouer, j'ai besoin de manger un petit peu pour me dire que je prends des forces. Et en fonction du premier plat que je prends pour la première, et si la première se passe bien, il faut que je prenne tout le temps la même chose pendant ça. Alors, par exemple, quand on jouait la dégustation l'année dernière qui a duré 6 mois, j'ai mangé la même chose tous les soirs pendant 6 mois. Donc, j'ai pas intérêt le premier soir, en fait, à prendre, je sais pas, une saucisse purée, quoi. Parce que...
Bah, Mathieu Noël, il aurait pris de la truffe, vous imaginez, ça lui aurait coûté cher les six mois.
Oui, mais ça aurait coûté cher à la production de la pièce, surtout. C'est sûr. Il paraît que pour vous approprier au mieux un texte, vous faites partie des rares actrices qui réécrivaient vous-même une partie du texte, c'est vrai ça?
Ouais, je réécris tout. Pour me donner l'impression, en fait, que c'est moi qui l'ai inventé. En fait, c'est une façon de... Ouais, par mon écriture, et puis c'est aussi pour le retenir. Ouais. C'est un moyen mémotechnique formidable. C'est comme ça que j'ai réussi à passer le bac.
En réécrivant
tous mes cours.
Bah c'est une bonne technique, on n'y pense pas forcément. Ouais. Nous sommes allés vous poser la question, qui est pour vous Isabelle Carré? Voici, non pas un micro-trottoir gentillet, on n'est pas chez Drucker. Voici notre micro-trottrash. C'est comme un micro-trottoir, sauf qu'on a laissé aussi les vacheries.
Bonjour Isabelle Carré.
Une petite blonde, oui, c'est ça.
Les timides, là, comment le truc des timides, hein, avec Poulverde et puis Hôtel 3 étoiles ou 4 étoiles, un truc comme ça qui était très bien.
Elle est fraîche, elle est charmante, elle est adorable, oui, je l'aime bien, oui.
Moi, le cinéma, j'aime pas ces gens-là. Ils ont la belle vie, ils foutent rien. Je les acteurs, vous connaissez le film?
Adorable. Bah oui, moi j'adore Isabelle Carré. Ah ben si, pourquoi je l'aimerais pas? Ça a l'air de vous étonner.
Je vais voir ce soir la pièce avec Isabelle Carré, Détail. Au Rond-Point, parce que mon cher, je suis abonné au Théâtre du Rond-Point.
Elle dégage beaucoup d'émotions, elle est sensible, elle est assez émouvante, elle est touchante, je trouve.
Isabelle Carré, une exceptionnelle actrice.
Très sexy, en tout cas.
Ah ouais, on a tout laissé, on vous a dit, on a tout laissé. Ça vous convient? Vous reconnaissez?
Je me retourne un peu, j'ai l'impression que.
Ah bah, excusez-moi Isabelle Carré, mais on n'a qu'à regarder, on va revisionner.
Non, il
n'y
a que dans
4
étoiles.
Si vous n'êtes pas sexy dans 4 étoiles, je me fais moine.
D'ailleurs, les journalistes me disaient à chaque fois à la fin du film, mais pourquoi vous ne restez pas comme ça? Bah, 2 heures de maquillage.
Oh non, vous êtes si. Humble.
1 heure de coiffure, 2 heures de maquillage.
Non, mais il paraît qu'on vous dit souvent Isabelle Carré discrète et lumineuse.
Absolument. Je m'en suis amusée d'ailleurs dans mon livre Les Rêveurs.
Les Rêveurs, oui.
Voilà, et pour pour démonter un peu ça. Le livre s'appelait au début La partie immergée de l'iceberg à cause de ça, enfin en partie en tout cas.
Alors donnez-nous deux adjectifs qui vous, voilà, qui vous caractériseraient, et enfin les journalistes arrêteront de vous embêter avec les discrètes et lumineuses.
Aidez-nous à être moins cons.
Je sais pas, c'est super dur. On n'est pas un, on est mille, dit Pirandello, je, voilà.
Ouais, c'est plutôt bien. Pas mal comme, donc, mille, comme réponse. Moi j'aimerais revenir sur une chose, vous avez trois enfants si je ne m'abuse,
oui.
Si Wikipédia dit vrai. Vous, dans votre jeunesse, vous avez une enfance, vous êtes l'anti-Tanguy par excellence. À 15 ans, vous décidez de vivre seul, oui. Et vous, votre père payait le loyer, mais vous payez tout le reste, c'est-à-dire que pour gagner votre argent, vous faisiez des photos pour des magazines ados comme Jeune et Jolie ou OK Podium.
Oui.
C'est une époque un peu libre. Est-ce que vos enfants, vous leur laisserez la même liberté?
Non, absolument pas. En aucun cas.
Europe 1.
Au sortir de 55 jours de confinement, il ne fait aucun doute que culinairement parlant, vous êtes devenu un fin connaisseur de toute la gamme Pasta Box. Le revers de la médaille, c'est qu'en cuisine, vous ne valez plus rien.
Vous savez découper un loup, un turbo. J'ai des notions mécaniques.
C'est bien ce qui me semblait. Réapprenez les bases grâce à Olivier Pouls. Délice in extremis arrive juste après Pétula Clark, la gadoue sur Europe.
Du mois de septembre au mois d'août. Faudrait des bottes de caoutchouc pour patauger dans la gadoue, la gadoue, la gadoue, la gadoue. Ouh, la gadoue, la gadoue. Une à une, les gouttes d'eau me dégoulinent dans le dos. Nous pataugeons dans la gadoue, la gadoue, la gadoue, la gadoue. Ouh, la gadoue, la gadoue. Vivons un peu sous le ciel gris bleu d'amour et d'eau de pluie. Puis mettons en marche les essuie-glaces et rentrons à Paris. Ça nous changera pas d'ici. Nous garderons nos parapluies. Nous retrouverons la gadoue, la gadoue, la gadoue, la gadoue. Ouh, la gadoue, la gadoue. Il fait un temps abominable. Heureusement, tu as ton imperméable. Mais ça n'empêche pas la gadoue, la gadoue, la gadoue, la gadoue. Ouh, la gadoue, la gadoue. Il fallait venir jusqu'ici. Jouer les amoureux transis et patauger dans la gadoue, la gadoue, la gadoue, la gadoue. Ouh, la gadoue, la gadoue. Vivons un peu sous le ciel gris bleu d'amour et d'eau de pluie. Puis mettons en marche les essuie-glaces et rentrons à Paris. L'année prochaine, nous irons dans un pays où il fait bon et nous oublierons la gadoue, la gadoue, la gadoue, la gadoue. Ouh, la gadoue, la gadoue, gadoue, la gadoue, la gadoue, la gadoue. Ouh, la gadoue, la gadoue. Ouh, la gadoue, la gadoue, la gadoue.
La gadoue, c'était Pétula Clark sur Europe 1.
16h-18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Eva, vos qualités sont innombrables, la palette de vos talents infinie.
Ouais.
Mais il est un domaine où vous ne faites pas des étincelles, sauf évidemment quand vous mettez le feu à la cuisine, c'est justement la cuisine. C'est vraiment pas
vous
son truc. C'est vraiment pas son truc. Je donne un conseil d'amis, chers auditeurs, si jamais elle vous invite à dîner, comment dire?
Oh oui, je vous confirme, faut avoir mangé avant.
Voilà, c'est l'idée. Sauf évidemment si Olivier Pouls, notre cordon bleu, se décide enfin à lui inculquer les rudiments. Bonjour Olivier Pouls.
Olivier, défendez-moi tout de suite s'il vous plaît.
Ben c'est vrai que, mon cher Mathieu, vous êtes un peu dur parce qu'elle m'a... Alors, je n'ai pas goûté, mais elle m'a envoyé en tout cas quelques photos de plats qui m'avaient l'air plutôt sympathiques et que j'aurais bien dégusté. Donc, on va attendre.
C'est surtout en pâtisserie que vous avez des notions, Eva.
Ma ratatouille, vous avez goûté ma ratatouille?
Non, je n'ai pas goûté votre ratatouille, comme vous me le dites. Et je m'en passerai encore un petit moment. Olivier,
oh, c'est moche.
Olivier, c'est vous, le cordon bleu d'Europe 1. C'est vous, notre expert, qui chaque soir nous donnait une petite recette facile. En ce moment, cette semaine, le thème, c'est le Tupperware qu'on peut se préparer à la maison et pour le déguster au bureau à midi.
Oui, absolument. Et vous allez pouvoir le préparer pour l'emporter lundi, si vous le voulez. Mais avant, je voulais vous dire que je profitais aussi de ce petit moment pour apporter, moi aussi, ma contribution, vous savez, à la défense de la sécurité, de la santé publique. Je vous ai envoyé hier la photo d'un masque que j'ai mis au point. Alors c'est un masque, il est validé. Il est validé par le syndicat national de la charcuterie française, un norme BDC2, bouffe du cochon. Alors pour le réaliser chez soi, on peut le faire. Hein, c'est 3 tranches de jambon de pays superposées. Il faut 3 couches. Je couds le tout avec un fil de boyau de porc. Et l'avantage, c'est que ce masque, une fois que vous l'avez porté pendant une demi-journée, vous pouvez le manger.
Ah bah exactement.
Donc il est totalement biodégradable.
On va mettre la photo sur les réseaux.
Hein. Et comme ça, vous sentez très bon. C'est un nouveau parfum qui s'imprègne directement sur votre visage. C'est une très belle idée, signé Olivier Pouls.
Oui, il faut bien mettre le gras au-dessus d'ailleurs pour qu'il recouvre le nez.
Évidemment, ça filtre bien.
Je vous en ai préparé quelques-uns, les amis. Je vous les apporterai personnellement bientôt.
Je veux un modèle neuf, voilà. Pas porté. Hein. Merci.
Mais sinon, il y a une recette pour demain ou pas?
Oui, évidemment qu'il y a une recette.
Vous êtes déjà tellement loin avancé dans l'apéro que vous n'avez plus de recette.
Non, mais évidemment qu'il y a une recette. Et une recette que je trouve personnellement, je suis assez content de moi aujourd'hui. Originale, facile et je pense assez délicieuse. On va faire une espèce de salade façon maki. Vous savez, le maki japonais.
Ouais.
Donc on va prendre tous les ingrédients qui constituent un maki, du riz, mais alors ne prenez pas du riz à sushi parce que c'est un riz qui est trop collant. Donc prenez un simple riz long, classique que vous allez laisser cuire.
C'est vous qui êtes rond, ne confondez pas avec le riz.
Et ensuite faire refroidir. Et puis il vous faut des crevettes, un avocat que vous allez détailler en petits morceaux et une vinaigrette un petit peu originale. Alors cette vinaigrette, on va se baser là aussi sur des recettes japonaises, sur la tradition japonaise, donc sauce soja, vinaigre de riz, un petit peu de wasabi, et puis vous allez détailler des algues noires, là, les algues nori qu'on utilise en cuisine japonaise, vous allez couper des petits morceaux et vous allez intégrer ça dedans. Et vous allez mélanger cette salade. Vous aurez toutes les saveurs du maki dans une salade à déguster comme ça, tout simplement, le midi chez vous ou au bureau. Et sans avoir à vous embêter, vous savez, de rouler les makis dans l'algue, ce qui est toujours un petit peu compliqué.
Ah, c'est pas bête du
tellement
tout.
Tellement compliqué qu'personne n'a jamais tenté ça, Olivier, à part vous.
Écoutez, je n'aurais pas la prétention de pouvoir faire de la grande cuisine japonaise. J'ai trop de respect pour les maîtres sushi et les gens qui font ce travail, que c'est vraiment quelque chose auquel je ne touche pas, si ce n'est avec cette salade un peu déclinée.
Très bien. Olivier Pouls, c'est très bien. Et je note que les cloches n'ont pas encore sonné, ce qui vous laisse encore un peu de temps pour vous préparer à retrouver monsieur le curé pour l'apéro.
Oui, non, mais allez boire un verre d'eau surtout avant. Là.
Voilà. Ouais, et surtout, arrêtez de faire des masques qui ne sont pas conformes à la réglementation européenne, parce que ce n'est pas le cas. Un masque, on le rappelle à nos auditeurs, un masque fait avec du jambon ne peut pas être un masque efficace contre le coronavirus. Merci Olivier Pouls.
Vous êtes sûr?
Oui, je suis sûr. Je ne suis pas médecin, mais je suis sûr. À demain, Olivier.
Europe 1.
Le dénouement est proche, les amis, et c'est toujours très émouvant, car comme dirait Alain Sirou, notre expert scientifique, l'équipe est sauvage, c'est une joyeuse bande de journalistes.
Des petits, des nains, des géants, des obèses.
Mais un seul vainqueur. Qui sera élu chroniqueur du jour? A tout de suite pour la grande finale.
16h, 18h, l'équipe est sauvage sur Europe 1. L'équipe est sauvage sur Europe 1.
16h, 18h,
Mathieu Noël.
L'équipe est sauvage est au grand complet pour désigner notre champion du jour. Oui, messieurs, chaque jour, juste avant 18h, la France s'arrête de respirer. Et une grande question, une seule, nous brûle les lèvres à tous. Oui, Nicolas?
La grande question.
Oui.
Quand on se gratte les couilles,
non.
À partir de quel moment est-ce qu'on le fait? Parce que ça vous démange ou parce que ça vous fait plaisir?
Oui, non, mais aussi, mais surtout, qui sera élu chroniqueur du jour? C'est le moment, les amis, du qui tout double. Nos journalistes ont 10 secondes pour nous convaincre de voter pour eux. Nicolas Caro, justement, pourquoi votre chronique mérite-t-elle la victoire aujourd'hui?
Parce que je vous ai prouvé que les écrivains pouvaient prédire l'avenir et donc je vous ai rappelé qu'il fallait écouter les écrivains. Donc peut-être qu'on va éviter des catastrophes grâce à cette chronique.
Et en écoutant votre émission du samedi. Hein, on peut la signer.
Oui, c'est le dimanche.
Ah, je n'y arriverai jamais.
C'était le samedi avant.
Quasiment.
C'est pour ça,
Nicolas. Ah, ouais. Je vous écoute depuis tellement longtemps que c'est passé du samedi au dimanche. Aussi,
dimanche 14h.
Dimanche 14h, la voix est libre. Anne Le Gall, pourquoi votre chronique mérite-t-elle la victoire aujourd'hui?
Eh bien, parce que je vous ai proposé un sujet écolo, innovant, positif sur le vélo en bambou. Alors j'espère que vous n'allez pas me mettre des cannes dans les roues.
Pourquoi pas? Pourquoi pas? Effectivement, voilà. Pourquoi pas? Voilà, surtout, voilà. Un vélo en bambou, un bon plan pour nos éditeurs en ce moment où le pouvoir d'achat est un peu en recul, un vélo en bambou pour la modique somme de 5000 balles. Merci beaucoup pour ce conseil.
Non, si on le fait soi-même,
oui, 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 bah, si on le fait soi-même, c'est 1500, génial. Avec une semaine de boulot derrière. Ève Roger, pourquoi voter pour vous?
Eh bien, moi, j'ai encore fait mieux que Nicolas Carreau parce que je ne me suis pas contentée de citer des écrivains morts. J'ai sondé l'âme d'écrivains vivants.
Voilà. C'est beau. Emmanuel Dutheil, pourquoi c'est vous qui allez remporter la margoulette finalement?
Parce que j'ai en travaillé, j'ai enquêté, je vous ai apporté de l'information. Certes, j'étais pas drôle.
Non, il y croit pas.
Mais si, j'y crois. Mais j'ai beau défendre dans tous les sens, de toute façon, ça marche jamais.
Mais on l'adore, donc, on l'adore.
Cessez, Emmanuel, ce défaitisme, puisque moi, et Dieu sait que c'était serré aujourd'hui, parce que j'ai adoré la chronique de Nicolas.
Oh non.
Mais mon point va à Emmanuel Dutheil, qui a mis une énergie extraordinaire pour jouer cette chronique qui restait de nous parler de l'automobile, mais pourtant, c'était bien joué. J'étais suspendu à ses lèvres. Un point pour Emmanuel.
Merci
Dutheil.
Mathieu.
Eva Rock, pour qui votez-vous?
C'est trop
aujourd'hui
dur aujourd'hui. Mais pour la petite réflexion, ah bon, t'as plus de 40 ans, c'est Nicolas Carreau qui remporte.
Il est Nicolas Carreau.
Non, mais attendez, il est prêt à tout, il l'a sous doigt en lui
en
donnant
plus,
son
oui,
livre dans
le studio. Vous le voyez pas, chers auditeurs, mais effectivement, un livre a changé de main, c'est Nicolas qui l'a offert.
Si la prochaine fois, voir tous les points, il faut dire, ah bon, t'as plus de 30 ans.
Vous pourrez tenter, vous aurez deux ans.
Non, mais attendez, parce que ça, oui, c'était trop facile. Plus de 30 ans, j'aurais pas prêt.
Un point pour Nicolas, un point pour Emmanuel. Enfin, voilà, comme vous dites, Eva, il est temps d'avancer. Romain Causer, notre réalisateur, vote lui aussi.
Mathieu, je vais donner mon point à Anne Le Gall avec son vélo en bambou.
Merci.
Mais comment
Romain,
vous faites pour parler alors que vous avez votre masque? Vous avez enregistré votre vote.
Mais
il
fallait
avant
pas le dire.
Ah bah non, je le dénonce parce que notre réalisateur qui je me disais c'est bizarre parce que ses lèvres ne bougent pas
mais
au moment du
que
vote.
Ça.
Et là il a un masque, je me dis comment
j'espère
il fait pour
qu'il
parler.
A enregistré après Eve et Nicolas quand même.
Mais non, c'est pas ça, c'est pire que ça, c'est que il enregistre les quatre réponses pour mettre la bonne.
Coup, c'est vrai en plus, c'est vrai, il me fait signe que oui, il appuie sur un bouton.
Je vais donner mon point aujourd'hui à Emmanuel Dutheil.
Ah, oui, il a donc changé d'avis, c'est ça.
Et la mienne, et la mienne.
Tout est truqué dans cette émission, c'est un scandale.
Mathieu, je vais voter pour Nicolas Carreau avec ses romans qui précisent l'avenir.
Ça compte, c'est dit. Alors, Eva, vu que tout est truqué, il y a une chose qui n'est pas truquée ici, c'est le vote des auditeurs.
Ah oui, exact.
Que nous disent nos auditeurs? Vous aviez oublié les auditeurs,
on est bien. Enfin, non, le vote des auditeurs, évidemment. C'est Nicolas Carreau qui a remporté les deux points.
Alors donc, je suis perdu dans les calculs avec toutes ces tricheries. C'est Nicolas Carreau qui emporte cette édition de l'Équipée Sauvage qui était la 173e journée de notre émission. Je remercie mes confinés du jour. Eva Rock, Ève Roger, Anne Le Gall, Emmanuel Dutheil, Nicolas Carreau, Olivier Pouls, Romain Causer et Rémi Duprat en régie. L'Équipée Sauvage revient demain 16h. Tout de suite, vous restez sur Europe 1. Écoutez Le Monde Changer avec Nathalie Lévy et Sébastien Krebs pour votre grand journal du soir. Bonsoir Nathalie.